Merci Guillaume. On va laisser la parole maintenant à Colette Tronc qui s'excuse, elle est en visio, elle n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais merci à tout le monde, à tous les techniques, que ce soit R22 ou le CCO qui nous permettent de le faire.
Bonjour. Ok, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, toutes mes excuses de ne pas avoir pu vous rejoindre. C'est un cas de force majeure. Donc, je suis là plutôt au titre de Ars Industrialis, association des amis de la génération Thunberg, qui s'appelle maintenant Epoké, au sein de laquelle je suis membre du conseil d'administration. Alors, je voudrais commencer par attention, c'est que l'association AGT n'a pas eu récemment de réflexion spécifique sur le sujet des intelligences artificielles génératives. Néanmoins, je vais essayer de donner quelques positions de la AGT et d'Ars Industrialis par rapport à ces sujets de technologie et de technologie numérique. Alors peut-être sur la situation, on note un changement significatif dans l'édition depuis l'apparition de ChatGPT, avec une surproduction de textes écrits en collaboration avec ChatGPT, qui sont de la fiction en général, ou de la science-fiction, dont on ne connaît pas encore véritablement les formes, est-ce que ce sont des romans. On note la possibilité de réaliser des films avec l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a un film qui a été intégralement écrit et réalisé avec une intelligence artificielle générative, qui a donné lieu à une grève à Hollywood, hein, on le sait, donc ça prend une importance assez notoire. Donc, il y a des robots producteurs, il y a des images auto-générées par les intelligences artificielles génératives. Et donc, en réaction à cette dissémination de l'intelligence artificielle dans divers domaines, il y a une instance européenne qui est en train de se créer pour réglementer l'intelligence artificielle. Donc, tous ces éléments créent une situation d'instabilité, de désorganisation, de fragilité et d'élimination de certains des acteurs, et évidemment de peur. Cette peur, elle apparaît à chaque innovation, hein, à chaque diffusion massive de nouvelles applications. Précédemment, ça a été le métavers, évidemment. C'est la pandémie qui a conduit à l'impulsion d'un déploiement technologique du virtuel et de l'immersif, en considérant que nous pourrions être amenés à vivre ainsi, séparément, à vivre par interface virtuelle. Ces perspectives sont parfois soutenues par pour les industries culturelles et créatives, et parfois même par le ministère de la Culture et de la Communication, qui donne une injonction aux créateurs, aux créatifs, aux développeurs et aux artistes d'aller vers ce type de création. Donc, pour moi, il s'agit plutôt d'un solutionnisme technologique que d'une véritable nécessité pour des formes d'existence et pour des formes d'art. Alors, j'ai envie de demander qui a peur de la technologie, ou plutôt de la disruption technologique. Donc, je vais un peu présenter effectivement l'association et développer la pensée qui développe. Donc, la fondation de l'association des amis de la génération Thunberg Ars Industrialis, nouvellement Epoké, a été faite en 2020, en février 2020, à l'initiative du philosophe Bernard Stiegler, aujourd'hui disparu, qui était lui-même fondateur d'Ars Industrialis en 2005, avec trois autres philosophes et une juriste. Association qui était sous-titrée « Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit ». Alors que Ars Industrialis œuvrait à une politique industrielle des technologies de l'esprit, afin que les technologies numériques ne soient pas soumises aux impératifs de l'économie consumériste et n'engendrent pas par là même ce qu'il décrivait comme une bêtise systémique, l'AGT, elle, a pour ambition de requalifier ses réflexions dans un contexte qu'on appelle l'anthropocène, qui est aussi celui de la crise de la recherche scientifique et de la destruction des milieux de vie, mais aussi des rapports intergénérationnels. Alors pour l'AGT, il s'agit de travailler à diverses échelles, à penser avec un E et penser, c'est-à-dire soigner le vivant artificialisé et à ce point malade, qui est en danger et nous met en danger avec lui. On pense aux catastrophes écologiques, climatiques, économiques, aux crises sanitaires, etc., etc. Pour ça, il s'agit de penser le vivant selon trois grandes catégories, le vivant biologique, physiologique, le vivant technique et le vivant noétique, c'est-à-dire la vie de l'esprit. Bon, l'agencement des trois étant évidemment indissociable et la vie technique étant le fait de la vie humaine. Donc en effet, selon Bernard Stiegler, qui était un penseur de la technique, et en philosophie, la technique et l'impensée, disait-il, la technicisation est liée à l'hominisation. L'hominisation se produit par la technique, par l'invention technique. L'homme invente des organes artificiels, des instruments, organon en grec ancien, qui signifie donc instrument, et ce, à diverses fins. La présence de ces organes artificiels, de ces artefacts, modifie en retour les organes humains qui, dans un processus qui est celui de l'évolution. Modification de l'ensemble des organes, de leurs fonctions, et notamment à certaines échelles de temps, modification de l'organe cérébral, des fonctions cognitives, sensorielles et intellectuelles. Alors, peut-on dès lors parler d'intelligence artificielle? Bernard Stiegler disait que le silex taillé est déjà une forme d'intelligence artificielle. Cela, si on tente de sortir de la définition de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui et la pratique aujourd'hui aussi, c'est-à-dire passant par un appareillage autonome qui peut agir par lui-même pour trouver des solutions, voire prendre des décisions après une programmation, bien sûr, conçue par les humains. En fait, à chaque invention, à chaque nouvelle technologie, c'est tout le milieu qui est modifié et l'humain est à considérer comme une part ou une partie de ce milieu. Donc, selon Bernard Stiegler, il faut penser organologiquement, c'est-à-dire en associant les organes biologiques, les organes techniques et les organes sociaux. C'est ce qui constitue ce milieu. Milieu à penser et penser, comme je l'ai dit. C'est un environnement, notre environnement, ce qui nous prolonge, nous entoure, ce dans quoi nous habitons, nous tentons d'habiter. Il s'agirait donc de ne pas le rendre inhabitable ou invivable, et de vivre avec toutes les espèces, y compris les espèces artificielles. La technique est aussi considérée comme un pharmacone, c'est-à-dire un remède et un poison à la fois, curative et toxique. Ses effets sur le milieu n'étant pas prédéterminés ni prédictifs, il s'agit de faire des prescriptions à toute socialisation des inventions techniques. Cela nécessite donc un temps long de recherche et d'expérimentation plutôt qu'une série d'innovations disruptives qui détruisent le milieu, son équilibre ou son écologie, et c'est un petit peu ce qui nous arrive. Alors, de son côté, Stiegler considérait la situation historiquement et il investissait ses réflexions au niveau de l'évolution technique. Il prenait en considération la rupture produite par l'industrialisation, par l'accélération et l'expansion du développement technologique et par une mutation de la fonction et de l'opérabilité de la technique et de la technologie. Il voulait ainsi ouvrir à la réflexion d'un nouveau rapport entre l'homme et la technique, face et dans une nouvelle complexité et puissance de l'étant technique. La question de la puissance de la technique et de la domination ou de la libération par la technique vient interroger le sens de ces rapports et leur inversion destructrice et régressive. Ce sont des paradoxes de la modernité technique où la technique, écrivait-il, qui paraît être une puissance de l'homme, semble s'autonomiser de ce dont elle est la puissance. Donc modernité, science, technoscience, capitalisme, puis libéralisme sont le contexte technologique et socio-économique dans lequel la technologie, notamment numérique, se développe, parfois sous le terme de progrès technique. Or, il faudrait penser et penser organologiquement et pharmacologiquement la technique. Alors, pour en venir à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, je me suis amusée à demander à ChatGPT qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Évidemment, ChatGPT a répondu. On aurait peut-être pu faire cette journée exclusivement avec ChatGPT, mais je pense que on n'est pas encore au point où nous n'avons plus besoin de nos propres réflexions. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? ChatGPT répond, l'intelligence artificielle fait référence à la capacité d'une machine à imiter les fonctions cognitives humaines, telles que l'apprentissage, la résolution de problèmes, la compréhension du langage naturel, la reconnaissance de formes et la perception visuelle. L'objectif de l'intelligence artificielle est de créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. J'ai aussi demandé à ChatGPT qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative, et ChatGPT a répondu, l'intelligence artificielle générative fait référence à une catégorie de systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de générer de nouveaux contenus de manière autonome. Alors, moi, j'ai un doute sur nouveau. Ces systèmes utilisent généralement des modèles d'apprentissage profond tels que les réseaux de neurones pour créer des données qui ressemblent, dans une certaine mesure, à ceux qu'ils ont été entraînés à faire. Alors, à Ars Industrialis, on préférerait parler plutôt d'intelligence artificielle, de technologie de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit se produit dans un milieu technique qui favorise et qui valorise la culture et la valeur de l'esprit. Alors, en posant qu'il n'y a pas de vie de l'esprit sans instrument spirituel, Ars Industrialis s'était fixé pour but d'imaginer un nouveau type d'agencement entre culture, technologie, industrie et politique autour d'un renouveau de la vie de l'esprit. Pour Bernard Stiegler, le 21e siècle ouvre le stade numérique des technologies de l'esprit et le milieu numérique offre possiblement des technologies de transindividuation, mais réaliser ce possible ne pourrait se faire que si ces nouvelles industries de l'esprit associent les capacitations de l'individu. Donc, association entre industrie de l'esprit et capacitation de l'individu et du collectif, et ce qui pourrait être entendu par une intelligence commune, ce dans une démarche contributive, ainsi associés, formant le milieu technique. Cette association serait une attention à ce milieu, pouvant être ainsi nommée un milieu associé. Aussi, on considère que son appareillage ne peut être conçu selon le modèle de l'automatisation intégrale, qui éliminerait l'intelligence humaine et ses facultés, un milieu donc formé de cette attention et tout autant de capacité à l'interprétation, ne serait-ce que aux capacités d'interpréter les résultats par quoi opèrent les procédures de calcul des automates numériques. Automates numériques, dont le paroxysme pourrait être l'intelligence artificielle. Donc, je continue un petit peu une réflexion sur ce que pourrait être l'intelligence ou, passant par des technologies de l'esprit. L'interprétation, le raisonnement, la synthèse sont encore des facultés de l'intelligence humaine, qui se distingue en effet de l'analyse statistique des machines de calcul. On pourrait se demander si c'est une forme de l'intelligence et il faudrait peut-être revenir aux thèses de Turing, hein, pionnier de l'intelligence artificielle, provoquant avec cette simulation aveugle une expérimentation de cette distinction entre les formes de la pensée humaine et l'activité mécanique de l'ordinateur. Les machines peuvent-elles penser? C'est la question que posait Alan Turing. Il a essayé d'en faire le test, connu sous le nom de test de Turing, avec un jeu de limitations qui pourrait être considéré comme une forme de simulation du processus de l'intelligence afin de comparer le comportement humain avec le comportement machinique de l'ordinateur, initialement conçu comme une réplique du cerveau. Mais la machine dont il s'agit est une machine de computation numérique, c'est-à-dire une machine à calculer, très élaborée et actuellement devenue tellement complexe dans son fonctionnement au point que toute intelligence artificielle désigne ce mode opératoire. Mais nous savons évidemment que l'intelligence artificielle algorithmique n'est pas totalement équivalente ni similaire à ce que penser veut dire, hein, pour reprendre le titre de Martin Heidegger, car le cerveau humain ne fait pas exclusivement des opérations mathématiques pour ouvrir des chemins de pensée, et que son intelligence est au-delà et convoque de nombreuses facultés et capacités. Nous posons aussi que les formes de la pensée et les règles de l'esprit sont relatives au temps et aux espaces, signifiant qu'elles sont culturelles ou civilisationnelles, avec des changements et des différences, des variations et des variétés, produisant ce que l'on pourrait appeler encore avec Bernard Stiegler de la noodiversité ou de la diversité culturelle et intellectuelle. Or, avec les machines de computation, leur production et dissémination hyper-industrielle dans une mondialisation accomplie, et avec le développement de l'intelligence artificielle, le paradigme du calcul devient le fonctionnement hégémonique des activités analytiques et même des décisions, via les algorithmes des technologies numériques, leur autonomie, leur puissance, leur vitesse. Mais est-ce ainsi que nous devrions penser, pour citer Vannevar Bush, et même sentir, et est-ce même penser, même les sensations, si c'est une forme de l'intelligence? Donc pour son avenir et pour l'advenir d'une nouvelle rationalité ou vers une nouvelle économie de la raison, nous pourrions examiner le concept de pensée, donc avec un A, selon Bernard Stiegler, telle une pharmacologie de l'intelligence et de la pensée, faisant peut-être violence au calcul. Donc c'est en ce sens que nous tentons d'identifier ce que pourraient être des technologies de l'esprit numérique dans une relation transductive et fertile entre humains et machines qui formerait un milieu technique et culturel dans lequel il y aurait coévolution de la pensée et de la technique et pour éviter une probable obsolescence de l'homme. Donc on le voit, l'esprit n'est pas immatériel et ses formalisations s'expriment autant qu'elles s'impriment à travers les organes humains et ses instruments. L'appareillage numérique, ces données et le calcul automatique en sont une époque technique et symbolique. Cela nécessite analyse et critique. L'homme, en effet, produit ses organes artificiels. C'est par son expérience et son intelligence, son esprit, qu'il les façonne comme ses prothèses ou ses prolongements, dans lesquels il y a donc une relation entre organes intérieurs et extérieurs. Et c'est en quelque sorte à ce lien entre pensée et technique auquel il faut persister à prendre soin dans le développement technologique qui vient. L'enjeu est encore ici de constituer un milieu associé de tous les esprits et consciences de la société coexistant et coextensifs des artefacts numériques et peut-être de l'intelligence artificielle. Est-ce que je m'arrête là et puis on continue peut-être avec des questions? Sinon, je peux continuer l'exposé.
Est-ce que dans la salle, quelqu'un aimerait réagir? On a une partie très technique, après une partie très philo. Je sais que ça peut être assez déroutant. Je pense que tu peux continuer encore un peu. Puis après, je demanderai à Guillaume de nous rejoindre pour qu'on reprenne les débats.
D'accord. Alors, dans cette perspective d'automatisation qui se généralise et qui prend de l'ampleur, on a aussi une réflexion qui est quel rapport entre automatisation et désautomatisation. Et l'issue, toujours selon Bernard Stiegler, serait de mettre les automates au service de la désautomatisation, c'est-à-dire de l'intelligence, une véritable intelligence, et de mener une nouvelle critique de cette raison technologique en redonnant des fins rationnelles au calcul pour évidemment réactiver la vie de l'esprit sous toutes ses formes en lien avec les artefacts. Pour citer encore Bernard Stiegler, dans le sens d'un progrès social et spirituel que doit constituer le processus de numérisation. Alors, en prenant acte des conséquences de l'automatisation intégrale produite par les technologies numériques et le traitement algorithmique des données massives, cela au profit de quelques entreprises géantes et hégémoniques, comme cela a été cité précédemment, qui en conçoivent les applications à échelle hyper-industrielle, et ce de manière disruptive, dans l'affolement du marché et à perte pour l'économie générale, avec un taux élevé de destruction d'emplois qui génère une situation de misère et de désintégration sociale. Ars Industrialis a tenté de dégager de cet état de fait une pharmacologie positive pour un état de droit, et c'est un petit peu les sujets qui nous occupent aujourd'hui, proposant avec l'économie contributive un modèle micro et macroéconomique solvable et solidaire dans le cadre d'une redistribution du temps laissée par l'automatisation. Temps qui sera un temps libéré, un temps retrouvé, et non du temps perdu ou du temps capturé. cette désautomatisation serait une production individuelle et collective de capacités de savoir par de nouveaux agencements des échanges, de nouvelles organisations du travail, de nouvelles relations entre humains et machines, mais aussi de nouvelles articulations entre vie noétique, vie de la pensée, et vie active, donc production, entre penser et faire, et de nouvelles perspectives calendaires dont l'intermédiaire serait fondamentale. Mais aussi par une redéfinition du travail distinct de l'emploi, travail permanent, emploi intermittent, développement de capacités et de savoir, apprentissage de tous ordres, distinct de l'apprentissage, machinique, computationnel. Il s'agirait aujourd'hui de savoir comment constituer de nouvelles structures numériques qui désautomatisent et ainsi déprolétarisent les individus et reconstituent du lien social, un lien social véritable basé sur des échanges délibérés et porteur d'une véritable économie. C'est un modèle d'existence alternatif au tout technologique et à l'automatisation intégrale, à la production au service numérique exclusif des plateformes et de leurs applications et intégrant de plus en plus l'intelligence artificielle. Je vais peut-être m'arrêter là parce que la suite est vraiment un peu spécifique. Je dirais que si l'automatisation ne peut régresser, qu'en faire? Et que on a développé à Ars Industrialis, une réflexion évidemment sur l'emploi qui concerne l'emploi du temps plutôt que le rapport employeur-employé, et que cette temporalisation à la fois de la technologie et à la fois des activités est une ouverture pour de nouvelles formes d'économie. Alors, peut-être que ce sera un sujet de la journée. Je vous remercie de votre attention. Je pense que la place va être donnée aux questions.
Oui. Voilà. Eh ben, merci Colette. Déjà, je vais reprendre un peu parce que je suis désolée, je me suis pas présentée. Chaque fois, j'y pense pas. Moi, c'est Laura Boif et je suis photographe. Donc, forcément, j'ai une vision là-dessus qui est sur de l'ordre du visuel. Je trouvais ça aussi intéressant, du coup, d'en plus du côté philosophique d'avoir une autrice, donc le côté de l'écrit, parce que je pense qu'on est un peu les deux premiers arts visuels, à écrit pour les IA génératives. En tous les cas, on est les premiers touchés. Et puis pour le côté temps, je me suis posé la question, tout simplement, je sais comment je le vois maintenant, j'ai bossé pour pouvoir essayer d'introduire cette table ronde, mais finalement, autour de moi, comment est-ce qu'on le voyait? Donc, j'ai fait le truc classique, on va dire, j'ai demandé à Facebook, les copains, vous en pensez quoi de l'IA générative? Donc, j'avais, ils nous pillent parce que c'est bien sûr principalement des photographes qui m'ont répondu, hein. Étant photographe, j'ai un réseau de photographes. Donc, ils nous pillent, on ne sait plus quelle était la vérité des images, donc ça aussi, ça m'intéressait parce que Guillaume de la Saïf était avisable pour l'image et je sais qu'il a eu aussi ces questions-là pour les photos documentaires, photos reporters, ça pose des questions. Mais finalement, pour les petits boulots que l'on fait, qui nous apportent quand même bien de l'aide pour manger, et ben il y en a plein. Moi, j'ai déjà vu qu'ils sont partis. Donc, créer une image de toute pièce, c'est déjà là. Donc, je ne sais pas quelle est vos réalités à vous. Il faut vraiment qu'on en parle, qu'on les partage et qu'on les regarde en face, parce que finalement, quel est notre travail? C'est aussi regarder quelles sont les évolutions qui sont en train de se produire ici. On ne va pas regarder aux États-Unis, on ne va pas regarder qu'est-ce qu'on est en train de vivre nous, et on en parle et qu'est-ce qu'on en fait. Comment on le pense? Est-ce que vous voulez peut-être interroger Colette ou Guillaume sur quelque chose déjà, ou sinon faire un témoignage?
Vous m'entendez? Bonjour. Non, je pensais à quelque chose récemment sur Facebook. J'ai vu des personnes qui s'extasiaient sur des images d'animaux et de paysages en pensant que c'était absolument vrai. Enfin, je veux dire, et donc cette dérive de que des personnes commencent à vivre dans un monde qui n'existe pas et qu'ils le croient pour vrai, c'était un peu affolant. C'est juste une remarque, pardon, c'était pas assez...
Mais moi, je serais déjà intéressée aussi par vos métiers, enfin, le médium que vous utilisez, si ça vous concerne ou pas, ou là, si vous êtes venu par un intérêt général. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre la parole là-dessus. Linda.
Bonjour. J'ai fait pause pipi, donc j'ai raté les 5 dernières minutes qui peut-être posaient, étaient sur la question. Alors moi, je suis peintre dessinatrice. En fait, c'est pas tant par rapport à ma pratique, c'est plutôt par une pratique générale, une pensée philosophique générale. Stiegler a écrit ses textes déjà il y a un petit moment, en fait, par rapport à tout ce qui était les nouvelles technologies. Disons qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a toujours ce côté oui, mais à quoi ça va servir? Oui, mais de toute façon, on en fera quand même quelque chose, etc., etc. Sauf qu'au fur et à mesure, on voit bien qu'on va vraiment dans un mur, et le mur, on se prend vraiment dans la gueule là actuellement. Donc, quand est-ce qu'on arrive à dire, et notamment avec les intelligences artificielles, on arrête, on boycotte, on fait stop, en fait, parce que là, on voit bien que l'IA, c'est pas uniquement des questions de création, mais c'est aussi, aucune nouvelle technologie va faire que tout le monde va avoir à manger correctement et un toit sur sa tête. Ça n'existe pas. Et l'intelligence artificielle, là, c'est quelque chose qui, nous, artistes auteurs, on se cogne, mais vraiment pas du bon côté déjà, en fait, pour toutes celles et ceux qui sont à Pôle emploi et au RSA. Dans le sens où les algorithmes, qui maintenant de plus en plus ce sont des IA qui vont décider justement des contrôles, notamment côté RSA. Et en fait, une fois qu'un contrôle est mis en place par un algorithme, une intelligence artificielle, c'est impossible, par exemple, de revenir dessus d'un point de vue humain. En fait, voilà. Et c'est moi la question, c'est d'un point de vue philosophique et pratique, si là, faudrait peut-être pas commencer à faire un peu comme BDS pour la Palestine, mais faire du boycott, en fait. Boycott, disons, sanctions, etc.
J'ai pas entendu la fin, donc j'ai pas entendu la question.
Ah, s'il y avait déjà quelque chose qui était mis en place pour une forme de boycott, vraiment, de l'intelligence artificielle avec une communication qui va avec. Et là, je pensais à ce qui a été fait par rapport à BDS, qui boycotte des investissements sanctions concernant la Palestine. Il y a un certain nombre de marques comme Carrefour, Puma, etc., pour justement essayer de donner moins de force, moins d'argent, moins de visibilité à Israël. Et notamment, si je parle de ça, c'est parce que actuellement, Puma a retiré son sponsoring aux équipes de foot israéliennes. C'est-à-dire que ça marche, en fait. Là, on en a une preuve. Moi, j'ai jamais pensé très boycott. Mais voilà. Et peut-être que pour les intelligences artificielles, il y aurait quand même quelque chose à penser là-dessus par rapport à Midjourney, par rapport à ChatGPT, etc., etc.
En fait, la difficulté, c'est qu'effectivement, moi, on peut, mais il faut retirer tous nos contenus qui sont en ligne sur toutes les plateformes, sur Internet, ce qui est quand même extrêmement compliqué. Ça veut dire qu'il faut retirer toutes nos images de Facebook, d'Instagram, des sites Internet qui les ont reprises. Enfin, sur le fond, moi, je suis assez d'accord, faut créer le rapport de force. Pour l'instant, clairement, on n'a pas beaucoup de billes de notre côté. Les industries... Pardon ? Oui, non, tout à fait. En tout cas, moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois pour essayer de rééquilibrer les choses. Comme le disait Laure, l'impact, on le voit très bien déjà. Il y a plein d'auteurs, et pas seulement des photographes, mais des dessinateurs de BD qui prennent un an, deux ans pour faire un album et qui, pendant ce laps de temps, vivent de petits boulots d'illustration qui sont plutôt alimentaires, tous ces boulots-là, ils sont en train de partir à l'intelligence artificielle parce qu'elle coûte quasiment rien et que ça permet de faire des économies. Mais faut créer le rapport de force. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de billes.
J'ai à moitié un élément de réponse. Je ne voulais pas te témoigner parce que moi, je suis plasticien, mais je suis membre d'un syndicat qui s'appelle le STA et qui a écrit deux textes sur cette question-là. Notamment un sur la traduction, parce qu'au niveau des traducteurs et des traductrices, l'impact il est hyper fort. Ils sont déjà en train de, leur métier est totalement en train d'évoluer dans le sens où on va faire appel à eux ou à elles pour faire de la post-traduction. Donc déjà ça modifie complètement le travail, c'est du temps perdu, c'est moins bien payé, etc. Et en fait, comme tu le disais, l'IA actuellement est utilisée pour finalement augmenter les profits d'une seule minorité de personnes. Et donc il y a ces textes du STA, il y a aussi des textes de l'ATLF ou l'ATA, je ne sais plus, mais c'est des organisations professionnelles dans le milieu de la traduction, qui essaient de se placer pour dire qu'il faut boycotter toutes les maisons d'édition qui font appel à des IA pour la traduction, voire même pour l'illustration des bouquins, etc. Donc il y a déjà des appels à boycott qui sont en train de se mettre en place, plus traduction. On a fait un texte aussi sur l'illustration, etc. Mais c'est un peu moins en place, mais ça commence à se... Voilà, il y a un virage qui est en train de s'opérer. Parce qu'avant, on était toujours là à se dire... les associations de traducteurs et traductrices étaient toujours là à se dire que dans tous les cas, l'IA n'arriverait pas à atteindre le truc humain, donc ça serait toujours des traductions techniques ou quoi, sauf qu'en fait non, là on y arrive à l'utiliser pour des bouquins d'auteurs, d'autrices, etc. Du coup, il y a un petit changement qui est en train de s'opérer dans ce domaine-là, il faut qu'on l'étende à nos domaines d'art visuel, je pense.
Oui, ça concerne pas forcément la question d'être artiste-auteur, mais déjà, ne pas avoir de smartphone, en vrai, ça permet de vachement ralentir la machine. Enfin, moi, j'ai pas de smartphone et on me donne des formulaires tout le temps. Et juste, ça ralentit, enfin, ça oblige à... Ouais, bah, on rigole, mais c'est vrai, ça marche. Et du coup, j'ai tout le temps des formulaires. Bon, des fois, c'est galère pour... Il y a des trucs... Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont développées sur les applications, mais pas sur les sites Internet. Et maintenant, ils enlèvent vachement... Enfin, il y a plein de choses qui sont accessibles que par appli. Du coup, si j'appelle, que je leur dis que je ne peux pas aller sur l'appli, ils me disent « Ah, mais sur Internet, il n'y a plus. » Du coup, il faut envoyer des formulaires papier. Ça perd la poste, c'est long. Mais il y a plein d'instances, CAF, RSA, Pôle emploi, les assurances, enfin tout ça, ça circule beaucoup plus lentement. Et puis, surtout qu'il y a tous les vieux qui ne vont plus avoir les applis. Enfin, au bout d'un moment, les gens qui n'ont pas vécu avec les smartphones vont... plus être là, et du coup, il faut aussi peut-être qu'il y ait des gens plus jeunes qui commencent à arrêter avec les smartphones. Enfin, c'est un bon moyen, assez simple.
Ouais, pardon, c'est intéressant ce que vous dites. J'utilise un peu ça, mais comment dire, ça met en évidence qu'on est peut-être à une génération du mur, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les dernières personnes qui n'ont pas Internet, qui ne veulent pas de smartphone ou qui veulent vraiment le contact humain et passer par les papiers, enfin, voyez j'ai envie de dire l'ancien monde contre le mur qui arrive là. Voilà. Donc en fait, j'imagine qu'on a encore du temps, mais c'est compté. Voilà. Si pour agir dans quelque chose. D'humain.
Oui, je vais rebondir un peu sur ce que dit Toulouse. Moi, je n'ai pas de smartphone non plus. Ça devient de plus en plus compliqué de vivre sans. La question, plus généralement, c'est la question du choix. Je veux dire, qui a décidé que c'est comme ça que ça se passe, que c'est... Je veux dire, on est tout le temps en train de courir derrière la dernière innovation technologique. Enfin, depuis une quinzaine d'années, on passe notre temps à s'adapter à des outils sans les avoir choisis. C'est-à-dire que effectivement c'est la technologie et les multinationales qu'il y a derrière qui dictent la façon dont nous vivons. Et c'est quand même un tout petit peu gênant.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Le système du web est devenu un système en soi tout à fait complet. C'est-à-dire qu'on peut passer notre vie derrière un écran à faire nos courses, nos opérations bancaires, réserver nos avions, appeler nos amis, et évidemment voir peut-être des œuvres d'art qui seraient auto-générées par les intelligences artificielles qui elles-mêmes sont accessibles en ligne. Donc, qui décide ? La question du choix, elle est évidemment cruciale. Quel rapport de force peut-être revenir à ce qu'avait été initié avec les logiciels libres, hein, qui sont un mouvement qui est un petit peu en perte de vitesse, mais il y a des gens qui se sont organisés, il y a des gens qui coopèrent, c'est un petit peu de nouvelles forces, mais évidemment qui sont microscopiques par rapport à cette puissance des grands groupes. Donc, du côté d'Ars Industrialis et de l'Institut de Recherche et d'Innovation, la réponse a été on tente des expérimentations territorialisées pour travailler avec les habitants à partir de leurs propres pratiques et de leurs propres nécessités, sans être contraints par les grandes plateformes qui effacent tout. Hein. Il y a aujourd'hui les IA génératives, mais on a parlé des Smart City, on a Airbnb un peu partout. Comment on réinjecte de la puissance d'agir à partir des territoires. On peut se dire que ça peut être à partir des communautés de logiciels libres, des communautés artistiques. Alors évidemment, tout ça, c'est sur un temps très long et ça demande évidemment une grande solidarité et capacité à non pas à réagir, mais à réinvestir de l'agir. Et voilà, donc c'est un défi, évidemment.
Je voulais je suis enseignante à l'université, mais aussi artiste-autrice, et faire plutôt un retour d'expérience côté université. J'ai été assez étonnée de voir qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui utilisent Midjourney comme un moteur de recherche. Et donc ça pose quand même aussi à un niveau pédagogique la question de savoir comment on... Enfin, moi, je sais que je fais partie d'une génération charnière qui a connu l'enseignement avant Internet et l'enseignement avec Internet. Et donc, j'ai un usage d'Internet ultra old school, en fait. Pour moi, c'est une bibliothèque, quoi, une bibliothèque en ligne, donc, où je vais chercher des sources. Et les sources, je sais qui les a déposées, etc. Si on considère une appli générative comme un moteur de recherche, en fait, on perd la traçabilité, puisque évidemment, que ce soit les images ou les contenus, ils ont été remalaxés, remélangés, et donc on perd les métadonnées. Et du coup, ça pose vraiment cette question de comment on peut aussi transmettre, en fait, ce que sont ces applis, comment elles fonctionnent, et donc ouvrir un peu la boîte noire des algorithmes et de l'Internet de demain, si finalement les générations d'après nous considèrent que ces applis génératives sont des endroits où aller chercher des informations.
Je rejoins aussi ce que vous venez de dire. C'est pas la première fois que je vois aussi des personnes, et c'est un truc, moi, qui me nerve, mais profondément, qui me fout en rage, même complet. C'est quand ces ChatGPT, Midjourney, sont utilisés, notamment côté militantisme. Mais vraiment militantisme, lutte des classes, etc., etc. Là, j'ai vu une personne côté féministe LGBT qui a été voir qu'est-ce que répondait ChatGPT à la question comment un mec hétéro cisgenre va faire pour convaincre une meuf de sortir avec. Voilà. Et il n'empêche que tu l'as vu. Et c'était un support en fait et de réflexion. Mais en fait, je me dis, mais comment dans sa petite tête, la personne en plus envoie mais grave du steak sur Instagram, arrive à un moment donné se dire, je vais aller jusque là dans ma réflexion pour voir comment ça se passe. Et moi, je trouve ça assez hallucinant, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui doit être trentenaire à peu près, et de génération en génération à 60. Mais après, la personne n'est plus là, mais qui fait... En fait, nous sommes responsables de ce que nous faisons, de nos choix. Moi, mon père, déjà, braillait, oui, mais la télé, c'est pas bien. Là, il y a toute une génération de parents qui ont mon âge, 41 bien tassé, oui, mais les gamins, ils sont toujours devant leur smartphone. Mais putain, toi aussi, t'as ton smartphone, t'es collé à aussi. En fait, et c'est de génération en génération, en fait. Il faut qu'on arrive à se limiter. Moi, j'ai voulu acheter un smartphone, j'ai pas pu à cause de ma banque, en fait. Voilà, c'est bête, mais je peux plus me servir de ma banque, enfin de mon compte en banque, sans un smartphone. Donc voilà, moi c'est un peu ça qui m'a limité. Mais comment on revient en arrière? Mais en fait, la question n'est pas de revenir en arrière, mais comment on réinvente des trucs à côté. Mais c'est aussi soit se sentir responsable, et puis c'est vraiment une question aussi de quel état sociétal on ne peut pas penser technologie correctement si on ne pense pas lutte des classes, écologie, féminisme, décolonial. C'est vraiment un tout qui est ultra politique. Moi, quand je vois côté artiste plasticien, et là, ça me fout en rogne, mais il y a toujours un petit bois. C'est pas tout le monde, évidemment, mais il n'empêche, il y a des choses à penser de ce côté-là et par rapport à nos luttes. Parce qu'il y a plein d'artistes là qui sont en train de le faire déjà, qui ont un boulot uniquement axé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et qui sont contents avec ça. Qui sont contents de faire mumuse. On s'entend bien compte qu'il y a des dérives. Mais ils sont incapables de se rendre compte qu'eux-mêmes font partie de la dérive. Donc voilà, quoi, ça c'est quelque chose, mais qui effectivement est collectif, mais il ne faut pas oublier le côté anticapitaliste derrière, quoi. Sinon, c'est comme l'écologie, hein, sans lutte des classes, c'est du jardinage.
Je voulais juste faire un point sur la responsabilité individuelle. Elle n'est pas forcément... Je pense qu'on n'est pas forcément responsable de devoir acheter un smartphone aussi. Vous avez parler de la responsabilité individuelle, je pense qu'on est surtout dans une responsabilité collective actuellement, et c'est pour ça qu'il y a c'est un truc des deux. Oui, peut-être, mais je pense que la responsabilité collective actuellement, elle est majeure. Elle est vraiment majeure.
Bien évidemment, il y a le côté ultra systémique de nos faits et gestes. J'enlève absolument pas seulement la toute petite part que l'on a et qui nous reste et qui est quand même une responsabilité qui est là personnelle. Quand une artiste va d'un coup se servir de ChatGPT comme ça, un peu béatement, c'est une responsabilité personnelle, de classe, qui est liée à sa classe sociale, qui est liée à tous ses privilèges. Bien évidemment, mais il n'empêche qu'on peut penser à hauteur de nos privilèges, et c'est là où on a quand même une responsabilité personnelle.
Alors moi je voulais juste, du coup je passe à, enfin, autre chose, une autre idée. Donc je suis plasticienne, je voulais juste revenir sur le développement de l'intelligence artificielle dans l'image. Quand c'est apparu, j'ai eu deux choses qui m'ont trotté dans la tête. C'est d'une part, alors peut-être vous pourrez me répondre, genre j'ai pas été sur le net regarder ce qui avait été dit ou fait, mais je me suis demandé où on en était justement de la dénonciation, de revendication de tout le milieu artistique de l'image par rapport à l'apparition des images créées par intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a eu des collectifs qui ont dénoncé ou qui ont eu des idées pour se battre contre ça? Et l'autre chose auquel j'ai pensé, c'est, toutes ces images qui sont créées donc artificiellement, on en a vu quelques-unes, est-ce que il va y avoir un engouement du coup pour cette esthétique d'image? Parce qu'en fait, quand même, je trouve quand on regarde bien, on voit bien que c'est des images conçues par une intelligence artificielle. Et est-ce que du coup, ça amène, est-ce qu'il ne faut pas vraiment apprendre aux gens, aux enfants, à lire une image? Enfin, alors vraiment, comment leur apprendre à reconnaître une image artificielle et qu'est-ce qui fait qu'elle est extrêmement synthétique et insipide? Enfin, vraiment axé aussi sur l'éducation de l'image. Enfin, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui.
Justement, pour rebondir là-dessus, parce que forcément, j'ai quand même le parcours dans la photo, j'ai souvent été demandée dans des écoles, bien longtemps avant, parce que mon tout premier métier en photo, c'était photographe de mode. Et la première chose qu'on m'a demandé, dès les écoles primaires, c'est apprends-leur à regarder une image, à savoir que c'est retouché, à savoir analyser, à regarder quel est le message. Et ça, en école primaire, c'était génial, parce qu'ils parlaient directement, ils voyaient les choses, il suffisait de très très peu d'accompagnement. Et l'éducation à l'image, de toute façon, elle est utile pour tout et pour tous, toutes et tout le temps.
Moi, je reviens juste sur la... Alors, je ne suis pas très calé sur la question de l'intelligence artificielle, c'est un peu pour ça que je suis venu ce matin. Moi, je suis plasticien, mais je fais aussi pas mal de motion design. Donc, pour le moment, je me sens pas trop impacté, mais je pense que ça arrivera. À partir du moment où on fait de l'image fixe, on sait faire de l'animation, c'est assez rapide derrière. Mais moi, je reviendrai sur ce que tu as dit ce matin, à savoir que je ne savais pas que vous aviez réussi à négocier avec Google. Donc, je te tire le chapeau que j'ai pas sur la tête. Mais malheureusement, je partage un certain nombre d'expériences et de choses qui se sont dites là tout de suite. Je suis d'accord avec vous. Je crains qu'on soit dans une société où on n'ait pas vraiment le choix de revenir en arrière par rapport à l'intelligence artificielle. Donc la question, c'est peut-être est-ce qu'elle peut pas devenir quelque part une espèce de matière qui puisse servir à tout le monde, c'est-à-dire que après générer comme l'histoire de Google, c'est-à-dire que puisque l'intelligence artificielle manipule des visuels qui ne sont pas à elle, pourquoi elle reverserait pas une part systématique à tous les gens qui créent du visuel, en fait? C'est peut-être que le combat plus tard, il est peut-être dans le fait de dire, en fait, puisqu'on n'arrivera pas à l'enlever, eh ben, autant qu'elle serve à tout le monde. Alors, ça aborde un petit peu la question du revenu universel, tout ça. Bon, moi, je suis assez sensible à cette question-là. Mais du coup, peut-être que le combat, il peut peut-être s'orienter vers ça, parce qu'on n'arrivera pas à dire aux Américains, rangez votre intelligence artificielle. Ça, j'y crois pas du tout, je suis désolé.
Alors, juste pour répondre, moi, oui et non. C'est-à-dire, il y a des combats qu'il faut mener. Je ne suis pas pour renoncer. Et en même temps, ne pas renoncer, ça ne veut pas dire renoncer à des droits. Voilà, enfin, c'est comme le droit d'auteur vis-à-vis de la continuité de revenus. C'est-à-dire que, utilisons le système tel qu'il est fait, parce qu'il y a des sociétés d'auteurs qui peuvent percevoir des droits et qui peuvent les répartir de façon égalitaire, pour peu qu'on le décide. Mais en même temps, il faut poser un certain nombre de limites par rapport à l'intelligence artificielle. Je discutais avec un auteur de BD la semaine dernière. En fait, par rapport à la qualité des images, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est comme le fast-food par rapport à la gastronomie. C'est là pour vous donner des images qui ont déjà été digérées, mais qui sont sucrées, plaisantes, agréables, etc. L'auteur de BD avec lequel je discutais disait, moi, j'interroge souvent l'intelligence artificielle quand on me demande de faire une image. Donc, elle me propose des choses. Je sais que c'est ce qu'il ne faut pas que je fasse. Parce que ça a déjà été fait, par définition, parce que l'intelligence artificielle ne fait que digérer ce qui a déjà été produit. Et donc, en tant qu'auteur, il dit, moi, je m'en sers de référentiel par rapport à la nécessité de faire autre chose. ce qui peut être un positionnement. Mais effectivement, je crains que l'intelligence artificielle, globalement, dire quand on voit que les JO vont être surveillés par l'intelligence artificielle, que France Travail va être géré par l'intelligence artificielle, il y en a partout. Et bah, absolument toute notre vie, sauf que je pense qu'il y a quand même un combat à mener pour un moment mettre des limites et savoir ce qu'on veut faire de cette technologie qui n'est qu'une technologie. D'ailleurs, c'est pas Google qui doit décider de nos vies. Et donc, voilà, il y a quand même un rapport de force à établir. Et pour autant, effectivement, je pense qu'on ne se débarrassera pas de l'intelligence artificielle générative, y compris de Midjourney, de génération d'images, et que donc la part qu'on lui concédera, il faut qu'elle donne lieu à une rémunération des auteurs pour garder un certain équilibre et faire que les auteurs puissent continuer à travailler, à créer, parce que le monde a besoin de ça, voilà, et que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous remplacer.